Bonjour à tous et bienvenue dans Amour. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode enregistré avec Anouk, qui a 27 ans et qui parle de son modèle de relation non exclusive. Elle nous raconte tout son parcours amoureux pour en arriver à ce choix-là, son rapport au travail et à l'amour, l'intensité qu'elle place dans ses relations, sa définition de la relation non exclusive et le bonheur d'avoir enfin trouvé un modèle qui lui convient. Comme d'habitude, si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Les informations sont en description. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute.
On est vraiment en full spontanéité, machin.
Full spontané, t'es chez Wham, dans le panier de mon chien.
Let's go.
Pour me parler d'amour.
Let's go. Dis-moi que ouais.
Ouais, si tu peux, comme ça, t'es
comme
bien
ça, oui, tu me dis si le son est bien.
Ah, oh, t'es parfaite. En plus, t'as une belle voix aussi, j'adore.
Je t'ai dit, je fais la lecture audio.
Genre, on s'envoyait des petits messages tout doux pour bien dormir avec les filles sur le groupe WhatsApp. Et du
oh
coup,
là
genre...
là, mais je vous ai. C'est ouf.
Et j'avais fait des audios où je leur lisais les premiers chapitres.
Incroyable. C'est une belle intro ça, Anouk,
n'est-ce pas?
Moi je suis complètement à l'arrache.
Let's go.
Donc let's go. Je suis avec Anouk aujourd'hui. Salut Anouk.
Bonjour.
Anouk, je te connais et je suis contente de te revoir parce que tu as participé à mon documentaire.
C'est vrai.
IVG, le droit d'en parler, qui était diffusé cette semaine. Je sais pas quand le podcast sortira, mais diffusé le 5 mars sur France 2. Un délire quand même.
Un grand délire.
Est-ce que tu t'es vue d'ailleurs en direct à la télé?
Non, je n'ai pas. Alors justement, ce soir-là, du coup, j'étais occupée à parler des étudiants dans le cadre de mon travail, essentiellement. Donc non, j'étais pas devant la télé. J'ai vu les stories des copines qui étaient dans la télé. J'ai vu tes stories qui étaient devant la télé aussi.
Ouais.
Mais non, du coup, j'ai même pas regardé, effectivement.
T'as même pas vu ta tête à la télé.
J'ai même pas vu ma tête à la télé. J'ai vu ma tête après.
Il y a un rookie qui te ramène sa balle. Oui. C'est pas le moment pour jouer, en fait.
C'est toujours le moment pour jouer avec toi. Tu es trop mignon.
Donc, IVG, le droit d'en parler, c'est mon documentaire sur l'avortement qui a été diffusé sur Slash fin septembre dernier. Et là, avec le contexte actuel et tout ce qui se passe, il a été diffusé à la télé. Et je suis bien contente parce que c'est quand même un public qui est bien différent. Là, je reçois des messages de femmes, comme je te disais, de plus de 60 ans. Et ça fait plaisir, quoi.
De fou.
Alors, j'annonce, je suis fatiguée. Tu l'es aussi.
Nous le sommes conjointement.
Nous le sommes, mais ça va aller. Moi, ce que j'aime trop en plus avec ce documentaire, c'est que vous êtes copines avec les meufs,
grave pico,
avec ton groupe. Et ça, c'est ouf. Là, ce soir, tu vois les autres. Moi, je pourrais pas vous suivre. Mais j'aime trop, quoi, dans mon travail, quand ça fédère comme ça. J'ai eu des... Bah ouais, il y a des groupes de copines qui sont créés. Il y a même des amoureuses. Clara et Lucie. Bah si, c'est un épisode de Clara et Lucie que j'ai sorti récemment.
Il faut que je rattrape vraiment tout ça.
Franchement, tu vas l'aimer en plus. Okay. Il est génial cet épisode. Et on l'a enregistré ici d'ailleurs. C'est un peu les tatas de rookie. On l'a enregistré à trois. J'avais jamais fait ça.
Oui, ok. Alors
et
si,
ça,
j'ai vu quand Ok, j'ai vu tes stories où tu l'as. Ok, incroyable.
Bah, j'adore. Franchement, ça a encore plus de sens.
Bah ouais. C'est trop
cool. Voilà. Anouk, qu'est-ce que tu peux me dire? Quel âge tu as? Ce que tu fais dans la vie? Et d'où tu viens?
Alors, j'ai 27 ans.
Ouais.
Actuellement, j'ai un travail administratif. Je gère les Erasmus à la fac à Saint-Étienne.
Ouais.
Je viens de base du Puy-en-Velay, qui est du coup à une heure de Saint-Étienne.
Ouais.
J'ai un tout petit peu vécu à Lyon pour mes études et ensuite à Saint-Étienne, où je suis maintenant depuis quelques années.
C'est bien la vie à Saint-Étienne?
Ouais, moi ça me va très bien. Le Puy c'était trop petit, Lyon c'était trop grand. Ouais. Donc Saint-Étienne qui est littéralement au milieu entre les deux. Et au milieu aussi en termes de taille et d'envergure. Donc moi ça me va très bien. Très mauvaise image Saint-Étienne, hein, bien sûr.
Ouais.
Plein de...
Pourquoi?
Alors, parce que passer de trucs miniers, vision de « Ah c'est moche, c'est une ville ouvrière, machin. » Mais qui dit ville ouvrière dit ville de gauche. Donc déjà ça c'est pas mal. Ouais. Et le côté Saint-Étienne c'est moche et à la fois... vrai, mais pas bien plus qu'ailleurs. Enfin, bien sûr que tu as des quartiers moches dans toutes les villes du monde. Et en même temps, complètement faux. Saint-Étienne, tu lèves le nez quand tu marches. Il y a des trucs incroyables sur tous les bâtiments. Il y a beaucoup, beaucoup de très beaux bâtiments avec des trucs assez sidérants sur les décorations des bâtiments. J'ai pas les termes.
Ouais.
Non, c'est très bien. Tu peux tout faire à pied. C'est pas cher. C'est la ville la moins chère de France. Argument numéro un. C'est la ville la moins chère de France en termes de cette taille de ville. Parler de logement à Saint-Étienne à des gens qui sont à Paris, c'est toujours...
Vas-y, balance.
Un délire. Alors, je vais te parler de mon appart d'avant. On va peut-être commencer par là pour faire plus simple. Mon appart d'avant, j'y faisais 73 mètres carrés, un truc comme ça, et je payais 400-450 euros par mois. Quoi.
Délire.
Okay. Délire.
Donc, voilà. Tu aimes cette vie là-bas. Et là, tu dis que c'est un travail administratif. Est-ce que tu as envie de faire autre chose que ça?
Alors, mon rapport au travail est plus ou moins... Enfin, est particulier. Je ne sais pas si c'est particulier. C'est de moins en moins particulier, je pense, dans le monde actuel.
Ouais.
Mais je fais partie des gens qui mettent assez peu d'enjeux dans le travail. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Quand j'étais petite, et en vrai de vrai, c'est encore un peu le cas maintenant, j'avais des grands rêves de faire plein de choses, de devenir actrice, de devenir réalisatrice, de devenir écrivaine, ce genre de choses-là.
Ce qui peut encore arriver.
Ce qui peut encore arriver, on n'est pas à l'abri, bien sûr. Et j'ai un peu essayé ça, vite fait, genre audition au conservatoire, des trucs comme ça, qui n'ont pas trop débouché sur quelque chose. Et globalement, j'ai jamais eu le truc de me dire « Ah bah, je vais me consacrer à telles études ou je vais mettre tels efforts pour plus tard avoir une situation pro épanouissante. » J'ai toujours plutôt été dans l'idée de bah, « Je suis déjà en train de vivre ma vie et j'ai déjà envie que ma vie soit sympa. » Donc, faisons en sorte que ce soit sympa autant que possible, là déjà tout de suite. Ce qui fait que j'ai en vrai pas investi de fou pour me consacrer à des grands, grands projets pro.
Ouais.
J'étais quand même partie pour être prof de base. Au départ, je suis prof de français. Donc j'ai passé le CAPES, etc.
Et tu l'as été ?
Je l'ai été. J'ai arrêté assez vite parce que c'était source de pas mal d'anxiété et d'angoisse, je pense, en fait, en vrai de vrai.
C'était quoi tes élèves ? Quel niveau ?
J'avais deux classes de seconde.
D'accord.
Qui était très chouette, mais c'était... J'ai du mal à... On me pose souvent la question. Enfin, on me pose souvent la question. On me pose souvent la question tous les jours dans la rue, les gens se demandent.
Dans tous les podcasts que je fais.
Mais quand je raconte, voilà, typiquement quand je raconte mon parcours, ah ouais, pourquoi t'as arrêté d'être prof et tout, machin. Et généralement, j'ai du mal à répondre simplement. Mais oui, en fait, je crois que la réponse la plus simple, c'est ça, c'est que c'était source de stress, essentiellement. Et j'ai trouvé vraiment par hasard mon travail à la fac. Après, j'ai fait plusieurs trucs différents, mais en gros, toujours lié aux étudiants, soit qui viennent d'autres pays, soit qui partent dans d'autres pays.
Okay.
Et qui est vraiment un travail administratif, qui n'est pas le plus passionnant du monde, mais où je m'y retrouve.
Voilà. Je trouve ça trop bien d'entendre ton discours. Je trouve qu'on ne l'entend pas assez.
Ouais.
Et c'est hyper important. Et je comprends totalement ce que tu dis.
Ouais.
Et moi, je suis pour la semaine de 4 jours, en fait.
Moi, je suis pour le salaire universel, surtout.
Et le salaire universel.
Mais oui. Oui, oui, clairement.
J'espère que ça va un peu bouger en France.
Ouais, ce serait
à
bien.
À ce niveau.
J'aimerais y croire. Je ne sais pas du tout à quel point c'est réaliste ou pas.
Ouais.
Mais oui.
À nous qu'on est là pour parler d'amour.
Évidemment.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Parce que tu l'as senti comme ça dans ton cœur.
Oh, je l'ai lancé là. Wouh, je donne toute mon énergie. Après, je vais dormir. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à l'amour,
fatigue, nous disions
aujourd'hui, à l'heure actuelle. Quel est-il ?
Alors aujourd'hui à l'heure actuelle. Ok.
Oui.
Ok. Parce que faut pas que je déborde de la question. Aujourd'hui à l'heure actuelle.
Ouais.
C'est difficile de ne pas déborder de la question parce qu'il a beaucoup évolué. Non, mais
franchement, déborde, fais-toi plaisir. C'est une question ouverte.
C'est compliqué de répondre en ne parlant que d'aujourd'hui parce que... Enfin, il a beaucoup évolué, oui et non. Oh là là, je suis déjà en train de... la réponse la moins fluide.
Okay.
OMG. Non, alors bah justement, je vais faire la comparaison. J'ai dit que le travail avait pas forcément une... Je mettais pas tant d'enjeux dans le travail.
Ouais.
J'en ai toujours mis beaucoup plus dans l'amour et les relations amoureuses.
Ouais.
Voire... Trop, je sais pas, mais en tout cas, ça a beaucoup été le centre vraiment de mon existence, limite d'une manière presque un peu malsaine, de tout faire dépendre de ça, tout faire reposer là-dessus, etc. Ça va un peu mieux. J'ai un peu essayé d'évoluer de ça. Notamment, là, cette année, j'ai attaqué l'automne avec en tête, pas pour la première fois de ma vie, mais quasiment, de vouloir rester célibataire et d'essayer de me construire par moi-même, pour moi-même, épanouissement individuel, tout ça, ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour exister. Ce que j'ai fait pendant 2-3 mois, et encore, c'est pas vrai, je ne l'ai même pas fait. En vrai, c'est pas vrai. Il y avait toujours des histoires d'une manière ou d'une autre. Mais disons que je n'étais pas totalement en couple ou quoi que ce soit. Et en fait, là, je suis en couple depuis le mois de décembre, parce qu'on y revient vite. Donc, c'est toujours très important dans ma vie, clairement. Je pense que j'ai vraiment du mal, en fait, à envisager ma vie sans ça, tout en étant évidemment convaincue qu'il faut se construire seul et que c'est important. De pas totalement dépendre de quelqu'un d'autre pour exister. J'ai vraiment du mal à envisager ma vie sans ça. Ça a une place très importante. Et au-delà d'avoir une place importante, je pense que c'est le sujet qui m'intéresse le plus, en fait.
Mais tu es au bon endroit.
Pourquoi suis-je là, dis donc?
Est-ce que tu peux me parler de le début de ta vie amoureuse, comment ça s'est passé?
Je pense pouvoir dire que j'étais un peu précoce d'une certaine manière, avant même de parler de faire des choses, déjà dans l'envie de choses.
Okay.
Je suis un peu en décalé sur le parcours scolaire parce que j'ai sauté une classe et je suis de fin d'année. Donc en gros, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc tout est un peu décalé comme ça.
T'as sauté quelle classe?
J'ai sauté le CM1. Hein.
J'ai sauté le CP.
Allez,
dis nice donc. To meet you.
Hello.
Ah, CM1, ouais, c'est quelque chose. Enfin, remarque, CP, c'est quelque chose.
J'en sais rien, je sais pas.
Non, mais c'est quelque chose dans le sens où t'es déjà à l'école, alors que moi, je débarquais dans l'école.
Oui.
Enfin, tu vois, je connaissais personne. Oui, mais oui, du coup, c'était aussi dur, en fait.
Okay.
Bon, bref.
Ma foi.
Yes.
Toujours est-il que, ouais, du coup, genre, je suis entrée au lycée à 13 ans. Ouais. 13, 14, 14, 15, 15, 17. C'est ça, je suis entrée au lycée à 13 ans.
Ouais.
Et en fait, je sais que, du coup, j'ai commencé à avoir des relations amoureuses au lycée.
Mm-hmm.
Mais par contre, j'ai commencé à être amoureuse très fort. Mais dès la sixième, quoi. Intense.
Ouais.
Intense, fort. Et avec beaucoup de personnes différentes. Enfin, je tombais amoureuse beaucoup, souvent.
J'adore.
Ah, oui, non, mais... Et je sais que, du coup, dès le collège, comme ça, c'était un truc qui me... Enfin, c'est fou à dire maintenant, parce qu'avec le recul, c'est incroyable. Mais au collège, j'étais profondément désespérée de ne pas être en couple, de ne pas vivre. Mais... Parce que du coup, j'étais très amoureuse, mais c'était pas réciproque.
Tu as tenté?
Oh, j'ai tout tenté. Oh là là, oh là là, les tentatives. Alors, en sixième, on peut partir là-dessus, j'ai fait du théâtre, du coup, un petit peu. Notamment l'atelier théâtre au collège, où donc moi, j'étais en sixième.
Mm-hmm.
On a joué Oedipe Roi. J'étais amoureuse du garçon de troisième qui jouait Oedipe.
Trop chou.
C'est à la fois chou et horrible. À la fin de l'année, sur le dernier moment où on s'est vus, je lui ai passé un post-it avec écrit « Je t'aime » avec des étoiles et des petits cœurs dessinés autour. Je suis un peu en sueur en le disant parce que c'est un peu affreux. Mais oui, j'ai fait ça.
Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça?
Il n'a rien répondu. Il était en troisième.
Il t'a dit merci.
Je crois que j'ai fait un truc très awkward de je passe le voir. Enfin, je vais le voir à la fin. Je lui dis tiens, c'est pour toi. Et je pars. Et voilà, c'est tout. Fin de cette histoire.
Ce qui est bien, c'est de tenter des choses.
Tout à fait.
C'est
ah non,
d'y
mais
aller en fait.
Je voulais vraiment. Donc t'inquiète que je tentais.
Mais au collège, pas de couple.
Rien du tout. Et c'était vraiment une douleur pour moi. Tu vois, je me sentais désespérée. Je me disais, je ne vais jamais être aimée dans ma vie. C'est le drame de mon existence. Voilà, j'ai un besoin énorme de vivre tout plein d'amour que je ne vis pas. Et c'est horrible. Ce qui fait que je suis arrivée au lycée et j'ai finalement une première relation en seconde. Et c'était d'ailleurs aussi sa première relation à lui. Et en fait, à partir de là, ça s'est enchaîné. J'ai eu 3-4 relations, à peu près, bref, des relations longues. En tout cas, pour ce contexte-là, c'était des relations de plusieurs mois à chaque fois. Et j'ai vraiment beaucoup enchaîné. J'ai eu une petite période, genre de 2 mois, un moment, où il y a eu plusieurs petites choses. Mais sinon, j'ai toujours été en couple. J'ai toujours été en couple. Et j'ai beaucoup vécu ce truc de quitter une personne pour une autre.
D'accord.
Ou être quitté tout de suite, me remettre avec quelqu'un.
Tu veux dire, quitter la personne parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre.
Voilà, donc, soit, ça s'est passé plusieurs fois. Ou en tout cas, voilà, je restais pas seule du tout. Il y avait toujours ça.
Comment tu l'expliques, ça, si tu sais l'expliquer cette
Alors
envie,
oui,
tu vois.
Oh, t'inquiète pas que j'ai passé du temps. Hein. Oh oui, oh oui. Il y a à la fois le côté de j'ai trop besoin de, enfin besoin, je sais pas, envie, besoin de ça, c'est trop quelque chose qui me nourrit, etc. Et il y a aussi un côté qui est moins glorieux, qui est que je pense j'ai laissé traîner beaucoup de relations, ou en tout cas, pas forcément que des relations n'auraient pas pu bien se passer, mais j'ai pas fait en sorte de résoudre des problèmes dans des relations, et j'étais pas non plus assez forte et courageuse pour y mettre fin. Ce qui fait que bah, très souvent, ce qui mettait fin à la relation, c'était le fait d'avoir une issue, une porte de sortie en la personne de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment pas ouf de faire ça. Ne faites pas ça chez vous.
C'est pas simple. Quand tu dis forte et courageuse, on fait ce qu'on peut. Quoi.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, j'ai ce discours-là aussi parce que ça aurait été que, entre guillemets, dans des histoires de lycée, même si je ne dénigre pas du tout mes histoires de lycée. Elles sont très importantes et j'ai toujours... C'est bête à dire, j'ai du respect pour mes histoires.
Bah oui,
voilà.
Bah
mais c'est aussi parce que ça a continué plus tard et avec peut-être plus d'enjeux aussi dans la vie d'adulte.
Oui,
et donc c'est plus surtout ça que je me dis que bah oui, non, c'est pas fou. Vraiment, j'ai pas du tout assuré sur plein de trucs dans ma manière de gérer mes relations. Et donc, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai cherché à évoluer là-dessus. Je disais que j'avais un peu évolué sur ma manière d'être avec tout ça. C'est aussi pour ça parce que je voulais plus me comporter de cette manière-là. Potentiellement blesser des gens forts, me blesser moi aussi au passage, parce que ça me heurtait aussi au passage dans des trucs. Donc ouais.
Raconte-moi comment tout ça a évolué alors.
Alors.
Qu'est-ce qui a changé ?
Eh ben, il s'est passé que, donc, relation, je switch, machin. En plus, je dis ça, mais vraiment, j'ai un profond... Je pense que j'ai encore un profond amour, en vrai, et un profond respect pour chacune des personnes avec qui j'ai été. C'est pas du tout un truc de... J'ai enchaîné, je m'en foutais, quoi.
Bien sûr.
Pas du tout. Mais il se trouve que j'ai beaucoup enchaîné. Jusqu'à, en 2015-16, me mettre avec ce qui était l'ami d'un de... De mon partenaire d'avant, quoi.
D'accord.
Voilà, en passage, on tape dans des groupes d'amis et on pète des relations amicales, donc à faire. J'en parle en riant, bien sûr, mais évidemment que c'était pas que drôle.
Ça doit être compliqué, ouais.
Voilà. Mais il se trouve que ça a été ma relation très longue, avec du coup une personne avec qui on est resté longtemps ensemble.
Plusieurs années.
Plusieurs années. Ouais. Et on a acheté notre maison ensemble.
Oui.
Qui est toujours la maison dans laquelle je suis.
Ok.
Seule. Spoiler. On est assez ensemble et en fait, les choses ont été très douloureuses et très violentes sur la fin de ma faute, hein, clairement. En gros, j'ai commencé à nourrir une autre relation.
Okay.
Il l'a découvert et ça a été très violent et j'ai pas du tout fait les choses proprement. Enfin, clairement, j'ai énormément de culpabilité sur tout ça. Ça a été une période ultra chaotique parce qu'en plus, ça a duré longtemps. C'est ça le pire, c'est que j'étais... Enfin, comme je disais, je parlais d'être forte et courageuse pour quitter quelqu'un et s'assumer seule, etc. Parce que je pense que je ne l'ai particulièrement pas été à ce moment-là. Enfin, en gros, ça a été des périodes de plusieurs mois où je n'étais pas capable de dire oui, je mets fin à la relation pour partir avec cette autre personne ou pas pour partir, peu importe. Oui. J'étais incapable de le faire.
Et en même temps, là, tu avais un enjeu aussi matériel.
Oui, il y avait plein de choses. Ouais.
Ça implique aussi énormément de choses et c'est différent. Enfin, déjà, rien que de vivre ensemble et ensuite construire, avoir ce projet-là, d'acheter.
Bien sûr.
Tu t'engages, ça devait être compliqué.
Ouais, très clairement. Très clairement, il y avait plein de choses, il y avait tout ça. Et puis le fait que c'était une relation... Enfin, je ne pense pas avoir eu des relations aussi fonctionnelles dans, je sais pas, dans la complicité, dans l'entente, à plein de niveaux. Enfin voilà, c'était... Vraiment, j'ai passé très longtemps à être persuadée que je serais incapable de mettre fin à cette relation parce que c'était trop important pour toutes ces raisons-là, etc. Et il se trouve que tout a pété, pas forcément de manière préméditée. Et donc, bref, période chaotique de plusieurs mois où ça a été... ma vie a un peu pété à ce moment-là.
C'était quand, ça ?
Oui, du coup, c'était... La maison, on l'a achetée septembre 2020. Donc, oui, je crois que c'est ça. C'était printemps 2021, si je ne dis pas de bêtises.
Okay.
Voilà. Et je disais que j'avais peu d'enjeux sur le travail, ce qui fait que... Oui, j'ai pas précisé, j'étais déjà avec cette personne quand je suis arrivée à Saint-Étienne. Mmh. Et c'est pas uniquement pour ça que je suis restée à Saint-Étienne, mais c'est entre autres pour ça que je suis restée à Saint-Étienne. Parce que depuis, du coup, lui était déjà à Saint-Étienne. Et ce qui fait que, du coup, quand tout a pété, j'ai immédiatement dit je pars de mon boulot et j'ai plus de raison d'être à Saint-Étienne. En fait. Enfin, tout ça n'a de toute cette vie-là, ce taf-là administratif, correct, mais pas incroyable, etc. Tout ça n'a de sens que parce que c'est dans le cadre de cette vie, de cette histoire, etc. Donc j'ai tout arrêté direct. Alors, j'avais un préavis au boulot, je ne suis pas partie tout de suite, mais voilà, tout a volé. Et donc ouais, c'était printemps 2021. Et en gros, là, ça fait que depuis la rentrée, à peu près, que les choses se sont stabilisées.
Stabiliser à quel niveau ?
Dans ma vie, le fait de me reprendre une vie plus calme.
Est-ce que t'es partie ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Ouais, en fait, il y a eu plusieurs... En fait, je suis pas partie... Alors, c'est ça aussi le truc. Sur le côté gestion de la maison, en fait, lui est resté un temps où moi, je suis partie. J'ai passé pas mal de temps chez mon père, en l'occurrence, au Puy. Et puis lui, pour le coup, une fois que les choses sont un peu avancées, a eu besoin de partir, quoi. Enfin, de pas rester là, d'avancer, de pas subir tout ce qui se passait. Et du coup, m'a dit que lui partait de la maison, là, que c'était pas possible. Et donc, c'était soit on vendait tous les deux, soit je rachetais sa part. Et j'étais pas du tout prête à vendre. Pour moi, c'était pas envisageable à ce moment-là. Donc, j'ai racheté sa part parce que voilà, je voyais pas comment faire autrement. Enfin, c'était pas envisageable pour moi. J'étais pas du tout prête.
Et de son côté, lui, c'était pas envisageable de te pardonner ?
En fait, c'est même pas ça. C'est que la période chaotique de plusieurs mois, c'était chaotique de moi qui fais poireauter tout le monde parce que j'arrive pas à prendre une décision.
Ok.
Ça a été ça. Ce qui est vraiment pas fou.
Tu veux dire les deux
ouais, c'est ça.
De la situation.
C'est ça, exactement. Okay. De j'arrive pas à dire définitivement je mets fin là ou je mets fin là. Mm-hmm. Pour, voilà. Et donc ça a été un gros bordel qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de monde, à lui surtout, à moi aussi, à l'autre.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, ouais, non, ça a été très, ouais, très chaotique et très douloureux pour tout le monde. Et donc, oui, avec ça au milieu de lui, au bout d'un moment, qui, bah, en fait, moi, faut que j'avance, il faut que je me préserve. Et donc, je pars de cette maison et voilà. Donc, j'ai racheté ses parts, j'ai gardé la maison. Et en fait, j'y ai pas vraiment été pendant les 2 années qui ont suivi. J'y étais, mais de manière très périodique. J'étais soit au puits, soit du coup chez l'autre personne avec qui je me suis mise en relation plus stable quand même, oui. Avec aussi des choses un peu chaotiques, mais plus stable. Je suis partie à la montagne un moment, du coup, avec cette personne qui vivait à la montagne. Donc voilà, il y a eu plein de phases un peu comme ça. Et je suis finalement revenue à Saint-Étienne, là, en gros cet été, quoi. Ouais. Et à reprendre un travail plus posé, machin, etc., pour restabiliser tout ça.
Oui, ça a mis du temps quand même pour que tu te restabilises.
C'est ça.
Qu'est-ce que cette histoire, cette rupture et tout, qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion sur tes envies du couple ?
Plein, 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 plein. Déjà, comme je disais, des réflexions sur le fait qu'il fallait que je réfléchisse un tout petit peu plus mon rapport à l'amour et au couple, parce que ça a fait trop de mal à trop de personnes. Ouais. Et même si évidemment les histoires sont complexes, il y a plein de choses qui se passent, mais globalement c'est essentiellement de ma responsabilité, hein, très clairement. Donc ne pas me poser de questions et continuer aveuglément, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc un peu m'interroger sur pourquoi j'avais fait les choses comme ça, sur de quoi j'avais besoin, sur quoi fallait que je travaille pour ne pas répéter une situation comme celle-là. Mmh. Et aussi une dimension dans tout ça qui était la réflexion autour de la relation libre,
ouais.
Qui était... Je ne pourrais pas dire que c'était la seule explication et le seul problème. Évidemment, tout ça a été plus compliqué, mais il y avait un peu une réflexion autour de tout ça.
Et ça, tu y pensais déjà avant ?
En fait, je pense que j'en avais entendu parler, mais je n'en avais jamais vu. Une espèce de mythe comme ça. Et en fait, je me souviens très clairement à quel point ce n'était pas envisageable. Ce n'était même pas une discussion potentielle. C'était juste ça n'existe pas dans notre réalité.
Et pourquoi ? Est-ce que tu n'as pas eu les modèles aussi
peut-être,
directement ?
Peut-être. Aussi pour le fonctionnement de la personne avec qui j'étais à ce moment-là.
Ouais.
Ou très clairement en termes de manière de fonctionner sur des histoires de jalousie. Voilà, c'était pas du tout envisageable.
Okay.
Et voilà, c'était vraiment pas une option. Et en fait, j'ai dit du coup que j'avais enchaîné les relations, potentiellement que je m'étais mise avec des gens en quittant. Enfin bref, avec des trucs qui pouvaient chevaucher parfois, qui n'étaient pas très nets. Et en fait, je le sais très bien que oui, j'ai dans beaucoup de relations eu ce truc de potentiellement avoir envie d'aller chercher ailleurs, ou besoin de plaire, ou besoin de vivre d'autres choses, etc. Et en fait, je l'avais toujours vu comme un défaut, comme une part chez moi de personne méchante et égoïste, etc., etc., etc. Et j'ai commencé à me demander si, en fait, peut-être que c'était juste un autre fonctionnement que l'exclusivité. Et qui était un défaut parce que c'était pas admis comme ça, ça rentrait pas dans le fonctionnement de relation que j'avais. Mais peut-être qu'il y avait un autre fonctionnement à trouver, du coup. Et ce qui fait que, je l'ai dit très clairement, du coup, à la personne avec qui j'ai été après mon compagnon de la maison, que je ne me remettrai jamais en relation exclusive si je le quittais un jour. À ce moment-là, je ne pensais même pas encore pouvoir le quitter. Mais j'ai clairement prononcé cette phrase de « je ne peux pas me remettre en relation exclusive après ». Aussi parce que j'avais un peu en tête ce truc de cette relation-là que j'ai eue, on a acheté la maison, etc.
Oui, il y avait tout qui allait.
Il y avait tout, voilà, c'est ça, exactement. Si cette relation-là ne marche pas, il n'y a pas une autre relation exclusive qui marchera mieux, en fait. C'est qu'il faut changer le modèle de relation, quoi. Ouais. Donc ça a été...
Ça t'a soulagé de te dire que c'était possible ?
Est-ce que ça m'a soulagé ?
Ouais. De se dire que ce modèle-là pouvait te convenir pour la suite.
Ça faisait une piste. Je pense que ça faisait une piste de me dire bon, peut-être je suis pas vouée au désespoir sentimental et aux douleurs et tout ça. Peut-être que ça peut être une piste, ouais. Mais ça restait très très fictif en fait. Ouais. Et même si j'ai dit ça et dit que je me mettrais plus jamais en relation exclusive, etc. Dans les faits, il y a eu des tentatives de dire « allez, on est en relation libre », mais ça n'a jamais été fluide, ça a toujours été tour de dispute, de tension, parce que ça ne fonctionnait pas, clairement. Ce qui fait que moi, de plus en plus, la réflexion continuait dans ma tête de me dire « mais je pense vraiment que c'est mieux pour moi, en fait. Juste là, ça ne marche pas avec toi, mais ce serait vraiment mieux pour moi.
Ouais. »
Et...
Tu n'as pas lâché.
Ouais, bah en fait parce que en fait ça me paraissait de plus en plus évident quoi. C'est à partir du moment où je me suis autorisée à le penser et à le conceptualiser, c'était évident pour moi. Enfin justement sur ces questions de jalousie par exemple, je pense pas être, je peux être jalouse, je peux même être très jalouse, pas que en relation amoureuse, mais pas du côté physique, charnel, etc. Je m'en fous un peu, je pense, vraiment. Et à l'inverse, enfin, je l'ai dit quand je parlais de la période collège où j'étais avec personne, j'étais amoureuse de plein de personnes en même temps.
Ouais.
Enfin, oui, je me souviens de discussions au collège avec des copines qui disaient mais tu peux pas être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, ça marche pas. Bah si,
la preuve.
Je jure que si, vraiment, je mens pas. Donc moi, j'ai toujours eu ce truc de pouvoir nourrir un intérêt profond, que ce soit amoureux ou attirance, quoi que ce soit, pour plusieurs personnes en même temps. Pas la jalousie sur le truc en face. Bah en fait, oui, du coup, ça paraît limpide, finalement. Donc oui.
Et relation non exclusive, qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement ?
Ouais. Alors, il y a plein de débats là-dessus.
Ouais. Il y a plein de définitions personnelles aussi,
tout à
quoi.
Fait, ouais. Tout à fait.
Quelle est la tienne ?
Alors, la mienne, en fait, pour le coup, je vais être un peu bête, très bête et méchante, de dire relation libre, c'est libre. Et je pense que moi, c'est vers ça que je suis maintenant dans ma vie, de dire bah, libre, c'est libre, quoi. Tu fais les choses librement. Mmh. Je n'ai pas ancré en tête un schéma de ça, on a droit, ça, on n'a pas droit, ça, on a droit, ça, on n'a pas droit. Okay. Tu vois. Évidemment que ça a discuté avec la personne quand on est en relation, etc. etc. Je pense plus beaucoup de communication, bien sûr, toujours. Mais ouais, moi, je suis beaucoup dans le truc de libre, totalement libre, à la fois parce que c'est aussi lié à où j'en suis là, je commence à reprendre un peu les rails de mon existence de manière un peu stabilisée et en fait me mettre maintenant des contraintes sur ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Vraiment, c'est un peu jacadis, quoi, pour moi. Ouais. Ça ferait pas sens du tout et c'est vraiment pas vers ça que... Enfin, j'ai pas besoin de ça maintenant, quoi. J'ai besoin de pouvoir être assez libre de mettre les choses en place d'une manière qui me corresponde, sans contraintes qui me paraissent venir de l'extérieur et dans lesquelles je trouve pas de sens. Mmh. Et puis oui, voilà, c'est juste, ça fait pas sens pour moi, quoi. Et je n'arrive pas à mettre du sens dans ces règles-là, quoi.
Est-ce que tu as rencontré une personne avec qui tu partages
Eh bien oui. Clap, clap. Mmh. Oui, du coup, je suis de nouveau en couple, je disais, depuis le mois de décembre, à peu près. Et c'était pas parti forcément pour du couple. En fait, c'est aussi, pour moi, ça rentre aussi dans cette idée de relation libre, c'est que c'était libre aussi dans la manière dont on relationnait, même entre nous, quoi. C'est pas juste libre d'aller vers l'extérieur. Déjà, c'était très libre entre nous deux.
Okay.
Où on s'est pas du tout, on s'est même plutôt dit qu'on n'était pas en couple au début, très clairement, et puis les choses ont évolué, ça a commencé à l'être de plus en plus, on en a reparlé, on s'est dit, bon, bah oui, visiblement, là, on commence à être en couple, disons-le clairement. Mais par contre, oui, ça a été aussi ça qui a été très agréable. C'est la première relation où j'ai pu, dès le début, arriver en tant que personne fraîche et évoluée. En fait, vraiment, je fonctionne comme ça et ça ne va plus être un sujet de débat. Enfin, oui. Ça peut être un sujet de débat de est-ce que tu l'acceptes ou pas et est-ce qu'on fait quelque chose ensemble.
Bien sûr.
Mais ça ne va plus être un sujet de débat de est-ce que moi, je change ça ou pas.
Il pleut.
Ouais, il pleut de fou.
Il pleut de ouf.
Il pleut de ouf.
Attends, je vais juste faire...
Vas-y.
Il y a une fenêtre ouverte, je pense, dans ma chambre.
Vas-y.
Donc, tu es arrivée en disant je suis comme ça.
Ouais.
Et je veux ça.
Ouais. En fait, de toute façon, encore une fois, au début, l'idée, c'était pas on se met en couple, voilà comment je suis. Ouais. C'était juste peut-être on va faire des trucs et voilà comment je suis. Et du coup, c'était en mode ok, pas de soucis, allons-y, quoi. Avec beaucoup, j'essaie de assez souvent répéter le truc de si ça te va plus à un moment, c'est ok, quoi. Faut pas hésiter à le dire. Parce que moi aussi, j'ai besoin de sentir que je peux dire en fait, ça me va plus. Et il faut que la personne en face puisse aussi le faire, clairement. Et puis ouais, les choses ont évolué sur le côté couple, avec rediscussion plusieurs fois de « on est toujours d'accord qu'il y a liberté quand même dans l'histoire ». Avec, je pense, pour la personne en face, il y avait un peu cette idée de relation libre, c'est libre plutôt sur une liberté sexuelle, concrètement. Ouais. Et par contre, les sentiments, c'est que nous deux.
Okay.
Je lui ai expliqué que, en fait, alors... C'était beaucoup une définition. En vrai, c'était des discussions intéressantes parce que c'était beaucoup juste se mettre d'accord sur... peut-être on dit des termes qui n'ont pas le même sens pour nous deux.
Oui.
Et en discutant, on se rend compte qu'on n'est pas si loin de chacun ses idées, quoi. Mais on ne met pas les mêmes mots. Et en fait, ce sur quoi on est tombé d'accord, c'est que la seule règle qui n'est pas une règle, c'est que c'est l'un et l'autre qui sommes les plus importants l'un pour l'autre. Mmh. Et que si un jour il y a une personne plus importante, bah ça marche plus. Parce que on est en couple tous les deux et pas avec les autres. Donc si à un moment il y a quelque chose qui vient remettre ça en question, c'est que ça marche plus.
Okay.
Et qu'en dehors de ça, on fait notre vie, quoi. On fait notre vie.
Comment tu te sens dans cette relation alors maintenant?
Ben ça me fait beaucoup de bien, en vrai. En fait, en soi, il y a plein de choses qui n'ont pas tant changé dans les comportements que je peux avoir, la manière dont je peux interagir avec d'autres personnes, etc. Mais ce qui a changé, c'est que ce n'est plus mal. Ce n'est plus genre je fais un truc pas bien et je suis en train de tromper la confiance de quelqu'un et je suis en train de mentir et je suis en train de potentiellement faire du mal, machin, etc. Là, c'est juste OK. Donc, c'est un grand soulagement de ne pas avoir à... Je l'ai dit, j'ai beaucoup de culpabilité sur pas mal de trucs. Là, de pouvoir ne pas avoir à ressentir de culpabilité, c'est un profond soulagement et c'est... En fait, ça change rien, quoi. Ça change vraiment rien. L'idée que j'ai beaucoup aussi de la relation libre, c'est bon, les choses qu'on répond sur ce qui fait que ça pourrait ne pas fonctionner, les relations libres. Il y a des personnes qui disent ça ne peut pas fonctionner, etc. Avec cette idée de si tu as le droit d'aller voir ailleurs, bah, du coup, tu vas plus facilement quitter la personne avec qui t'es parce que du coup, tu vas voir ailleurs. C'est la potentialité de trouver mieux ailleurs, etc. Mmh. etc. Et cette idée-là n'a jamais fait sens pour moi parce que j'ai vraiment dans l'idée qu'au contraire, si tu peux aller voir ailleurs, bah, du coup, pourquoi quitter la personne avec qui t'es ? T'as juste à aller voir ailleurs et tout va bien. Enfin, c'est pas, ça remet pas en question. Je veux dire, si t'aimes sincèrement quelqu'un et que t'as construit quelque chose avec quelqu'un, ça ne fait pas sens pour moi de me dire que le fait d'aller vivre un moment avec quelqu'un d'autre peut remettre ça en question. Mmh. Au contraire, c'est plutôt le côté ne pas avoir le droit d'y aller qui, moi, chez moi, a beaucoup eu cet effet de... Oh, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je quitte la personne avec qui je suis pour avoir droit à aller chercher ça ailleurs. Oui. Qui, en fait, ça se trouve, n'est pas si bien ou pas, ne vaut pas le coup de remettre en question une relation construite et heureuse. Quoi.
Voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup de sens avec toutes tes expériences du collège, tes expériences d'avoir quelqu'un, puis ensuite quitter pour un autre machin. Là, ça doit apporter une sorte de soulagement et de... Je sais pas, de bonheur, quoi.
Ouais, de sérénité, en fait. Sérénité, ouais, clairement de sérénité. De, ben, en fait, c'est OK, quoi. Tout va bien. Je suis pas... C'est vraiment ce truc de... Je suis pas en... Vraiment, avec la manière dont s'est passée ma rupture, etc. Le fait de pouvoir... C'est un peu le truc de... OK, je suis en train de faire du mal. Je suis en train de provoquer de la douleur. Non, là, c'est bon. C'est OK. Tout va bien. Je suis pas en train de faire quelque chose de mal, en fait. C'est...
Est-ce qu'il y a beaucoup plus de communication, du coup, tu
dirais? Ouais, je pense. C'est lié aussi, alors pas que sur le côté relation libre, mais effectivement, c'est lié aussi, je pense, c'est la première relation où je communique autant. J'ai quand même toujours essayé de beaucoup communiquer dans mes relations, mais en tout cas où je communique aussi sincèrement et spontanément. Où j'ai, bah justement, en fait, à partir du moment où le côté relation libre n'était pas accepté ou même pas envisageable, forcément qu'il y avait un petit enrobage de la réalité. Même si je n'étais pas en train de faire quelque chose concrètement avec quelqu'un d'autre, le simple fait d'en avoir envie, il fallait déjà que je le cache. Donc rien que ça, oui, ça fausse la communication. Et du coup, bah, là... Il n'y a pas tous ces problèmes-là de devoir arranger un peu les choses quand on parle, de devoir faire attention à ne pas dire un truc qui pourrait laisser penser que... Donc oui, la communication est aussi beaucoup plus simple, très clair.
Est-ce que tu en parles autour de toi, je ne sais pas, genre à ta famille et tout? Tu expliques un peu ce modèle que tu as?
Alors, ma famille, c'est tout un sujet. Je ne vais pas parler de mon couple actuel à ma famille, de manière générale. Je pense que ça, c'est plus le côté de, justement, j'avais le truc de, j'avais une relation très installée où on achète une maison, etc., etc. Plus derrière l'autre relation où je leur en avais un peu parlé aussi parce que j'ai un peu vécu chez lui, etc. Et à chaque fois, enfin, en fait, c'est toujours ce truc de, eh ben oui, en fait, là, c'est fini. Donc, bon, pas envie tout de suite de me reconfronter à ça. Donc, voilà, je laisse ça de côté pour l'instant. Par contre, oui, je suis très détendue là-dessus. J'en parle dans un podcast. Et oui, au niveau amical, j'ai vraiment pas de soucis avec ça. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais c'est presque un peu une fierté, je pense. En fait, c'est une fierté, le truc de ça y est, j'ai mis ça en place et c'est bon, quoi, ça fonctionne.
Tu as trouvé ce qui fonctionnait pour
toi. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est pas du tout un truc que je cache.
Tu penses que tu pourrais avoir des réactions de gens bêtes, bien sûr, mais négatives, enfin, ce serait quoi, tu vois, ce genre de...
En vrai, j'en ai déjà eu, j'en ai déjà parlé avec des gens qui m'ont... Alors, pas forcément négative, agressive, mais déjà la réaction de un peu « Ah, mais moi, j'y crois pas à ça, tu vois, ça peut pas fonctionner. » Genre, tant mieux pour toi si tu penses que t'es heureuse maintenant, mais en vrai, ça peut pas fonctionner. Il y a beaucoup ce genre de réaction,
Et qu'est-ce que tu réponds à ça?
Bah, j'ai notamment eu cette discussion de le truc de ah ouais, mais du coup, tu peux aller voir ailleurs, ça te donne envie d'aller voir ailleurs. Où je réponds ce que j'expliquais de justement, tu peux aller voir ailleurs, tu n'as pas besoin de quitter la personne avec qui tu es, c'est beaucoup moins risqué finalement. En vrai, ça m'atteint pas tant que ça. J'ai conscience que ce sujet-là, comme beaucoup d'autres, est tellement empreint de normes et de traditions et de codifications que pour plein de gens, bah oui, c'est. enfin encore une fois, je l'ai vécu aussi avant dans une relation et même dans mes relations encore avant où c'était pas envisageable, quoi. Donc je sais très bien qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas envisageable. De la même manière que le fait d'être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, par exemple, ne paraît pas envisageable à plein de gens. Donc ça m'atteint pas trop. Pour moi, c'est des histoires de remise en question, de modèles établis. Et c'est pas grave que tout le monde remette pas tout ça en question, hein, tant qu'on laisse les gens vivre. Il y a pas de souci.
Tant qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent.
Mais
Et le polyamour dans tout ça, parce que là on parle de relations non exclusives, toi tu parles de. Tu peux avoir des sentiments amoureux pour d'autres personnes.
En fait, ça a toujours été le cas, très clairement. C'est ce que j'ai dit à la personne avec qui je suis quand on a eu un peu la discussion sur préciser les termes, etc. Je lui ai dit alors, amour ou affection, j'en avais pour d'autres personnes avant toi et j'en aurai aussi pour d'autres personnes après toi. Je peux pas m'arrêter de fonctionner comme ça, quoi. Après, par contre, le fait de nourrir ou pas ça et de privilégier la relation de couple que j'ai par rapport à tout ça, c'est autre chose. Mais par contre, le fait de ressentir des sentiments, oui, ça sera toujours là, très clairement.
Et lui, il avait déjà eu des expériences comme ça avant ?
Non, je crois pas.
Ok.
Alors, pas de relation de couple pendant un moment. Ça faisait une certaine période qu'il n'y avait pas eu de relation de couple. Et c'était un peu le truc de... Je me pose... Encore une fois, c'était même pas forcément l'idée qu'on soit en couple au début. Donc, c'était un peu, si c'est ça le fonctionnement, allons-y. Et on prend et on verra bien, quoi.
Est-ce qu'il y a une forme de liberté aussi par rapport à ton statut de femme d'être en relation non exclusive ?
Oui, sans doute. Sans doute. Je pense à plein de choses et je réfléchis à ce que j'ai envie d'évoquer là, mais je crois que tant pis, je ne me suis pas posé la question avant, donc je ne vais pas me poser la question maintenant. Dans les petites évolutions que j'ai pu avoir et de choses qui ont un peu bougé dans ma vie et dans ma manière d'être femme et d'interagir avec les gens de manière générale, j'ai notamment un peu fait commencer à prendre des photos ou à me faire prendre en photo, à faire des séances photos, y compris avec du nu, par exemple. Ouais. Donc après ma rupture, sur toute la période un peu bouleversement, etc.
Oui. Reconstruction.
Voilà. Et je pense à ça parce que ce truc-là, par exemple, a pu modifier l'image de moi que je renvoyais et la manière dont les autres me voyaient. Et ça a été, je pense, une première étape, en tout cas une étape de... effectivement un peu ce truc de hey, je suis une femme forte et libre et indépendante et je fais ce que je veux en fait et vous allez faire quoi. Et c'était très cool, surtout que en fait c'est assez précis dans ma tête parce que c'était notamment pendant le confinement tout ça et notamment dans les cercles sociaux dans lesquels j'évolue, j'ai du coup revu des personnes après la période confinement où il y avait un certain laps de temps qui s'était écoulé et où je savais que ces personnes avaient pu notamment voir certaines photos ou certains trucs comme ça et où il y avait un peu une petite appréhension de qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va sur un petit slut shaming à fond? Est-ce que mon rapport, leur manière d'être avec moi va totalement changer? Et en fait, pas du tout. Vraiment, ça a été très très serein, pas du tout problématique. Et ce truc-là déjà m'a donné pas mal de force de ok, mais en fait, je peux vraiment faire ce que je veux. En tout cas, avec moi-même et mon corps et tout ça. Et ouais, ce truc-là était très cool.
T'as grandi dans quelle famille, dans quel milieu familial, Anouk ?
D'où viens-je ?
D'où viens-tu ?
J'ai grandi dans une famille de littéraires de gauche, on va dire ça comme ça pour résumer.
Ouais.
Je suis en train de chercher l'appellation. Du côté de mon père, on est sur une famille intégralement de profs. Voilà. Globalement, tout le monde est prof et séparé du côté de mon père.
Ok.
Pour résumer, dont mon père donc. Et ma mère a eu pas mal de petits boulots différents, en grande partie libraire, notamment quand elle était petite. Donc voilà, on est dans ce coin-là.
Et donc, modèle, tes parents en couple ?
Alors, pas
mariés.
Pas si longtemps que ça. Pas du
si
tout marié.
Longtemps. Okay.
Pas du tout marié, jamais été marié. Mon père a été marié, si je dis pas de bêtises, avec sa femme précédente avec qui il a eu des enfants.
Okay.
Mais pas avec ma mère, ils sont pas mariés. Et ils se sont séparés quand j'étais du coup en CM2, je crois, par là, quand j'étais petite. Et j'ai pas un souvenir profondément négatif de ça. J'ai un peu plus le truc de ça a toujours été comme ça, et voilà. Mais donc, parents séparés, plutôt vécu avec ma mère, bref. J'ai un frère, et un demi-frère aussi, et voilà.
Non, c'est comme ça, par curiosité, je voulais savoir. Et c'était quoi quand tu étais petite, tu vois, c'était quoi ta vision de l'amour?
Ah oui. Et ben, c'est peut-être évident avec tout ça, mais c'était le sacré, quoi. C'était la religion. Mmh. Enfin, j'ai vraiment beaucoup été tout, c'était le truc le plus important, tout reposait totalement, mythe du prince charmant, machin. Ma vie n'aura de sens que quand je vivrai une grande relation amoureuse et épanouie, etc., etc. Et ce qui fait que chaque fois où j'ai été amoureuse, je me persuadais que ça allait être l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, et que c'était la relation la plus... Enfin voilà, que tout ça allait donner du sens à ma vie et faire que je serais enfin complète, et etc., etc.
T'en es revenue de ça?
Pas totalement. Un peu. Je sais maintenant qu'il est possible de faire des choses avec des gens sans s'engager pour la vie entière. Mais bien sûr que c'est un peu toujours là, c'est compliqué de s'en détacher totalement. C'est toujours un peu là, ouais.
C'est trop bien d'être amoureuse plein de fois.
Oui, oui, oui. En vrai, oui. De fou. Oui, non, ça, j'aime bien.
Hein. Je trouve ça un peu rare. Enfin, tu vois, on a des histoires importantes, machin. On est amoureux plusieurs fois dans sa vie. Mais toi, j'ai l'impression que t'es amoureuse tout le temps.
Bah, oh, franchement, ouais. Alors après, en vrai, même ça, ça a été une évolution et des remises en question. En fait, j'ai beaucoup de réflexions là-dessus, sur le côté de j'ai été tellement amoureuse au collège, au lycée, et des fois j'ai un peu ce truc de, j'ai l'impression de jamais avoir été aussi amoureuse qu'à cette époque-là.
Okay.
Et du coup de m'interroger sur est-ce que c'était vraiment de l'amour, est-ce que c'est de la passion un peu plus juvénile, est-ce que...
C'est la découverte.
Voilà,
aussi,
est-ce que tout ça, machin... Même si je ressens encore des sentiments amoureux aujourd'hui, j'en ai ressenti dans les années qui ont suivi le lycée quand même. Mais ouais, c'est un truc qui m'interroge pas mal. Et à la fois, il y a le côté positif de c'est trop bien d'être amoureux, c'est trop bien de ressentir tout ça, c'est trop chouette. Et à la fois, je me méfie aussi toujours du côté idéalisation de tout ça, de trop me nourrir de ça et d'en faire une espèce de paradis perdu vers lequel j'ai trop besoin de me tourner, ou qui ouais, une espèce d'idéalisation un peu malsaine presque, de chercher ce truc-là à tout prix et de trop me tourner vers ça.
C'est marrant quand même, parce que t'es passé, enfin là on peut dire que c'est marrant parce que ça l'était pas sur le moment, mais t'es passé d'un truc très sérieux, on achète ensemble, on est ensemble, on s'installe. Ah, bah en fait, non, ça va pas se passer comme ça et je vais être dans une relation non exclusive.
Ouais.
C'est quoi ton regard sur ça maintenant?
Bah, je pense que c'est lié à tout ça. C'est lié à ce truc de. Même si là, ça avait du sens aussi dans le cadre de la relation, on s'entendait bien, etc. C'était pas totalement absurde. Mais à ce moment-là de ma vie, le côté acheter une maison, s'installer, etc., c'est parce que dans ma tête, j'étais dans ce schéma très clairement de. C'est ça le sens de mon existence, c'est avoir cette relation fonctionnelle et tout donner pour ça. Et même, comme je l'ai dit, même mon taf avait pas de sens en soi, si ce n'est que c'était dans la ville où il y avait cette relation. Et voilà. Donc vraiment, c'était mon unique focus et mon principal point de préoccupation, de tout mettre là-dedans. Et en fait, ouais, du coup, le fait d'essayer de déconstruire ça, de revenir de ça et de m'interroger un peu plus sur eux, en fait, en vrai, peut-être c'est un peu beaucoup d'idéalisation et il faut que je développe d'autres choses dans ma vie. Fait que ouais, je me retrouve maintenant à être beaucoup plus légère, même limite un peu l'inverse de je veux pas trop tout miser sur ma relation parce que j'ai besoin de développer le reste et de pas tout faire reposer là-dessus, quoi.
Ça donne envie un peu quand on entend parler comme ça. Tu sais, ça paraît hyper, hyper simple.
Ouais, alors ça l'est pas. Hein.
Ouais.
En fait, alors, je pense que beaucoup de ma sérénité et du côté simple apparent là vient du fait qu'au final, je me retrouve de nouveau en couple depuis quelques mois maintenant. Mmh. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité, de joie, et voilà. Et très clairement, avant ça, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais la période où je suis revenue sur Saint-Étienne avant de finalement être à nouveau en couple, ça a été, on va dire, 2-3 mois, 4 mois, marqué par la mort de mon chat au milieu, donc ça n'a pas aidé. Mais globalement, ça a été une période absolument atroce où j'ai eu... Enfin, c'était... Et alors aussi avec une tentative de suivi psy, d'ailleurs, il y a eu aussi ça, parce que j'étais... Enfin, j'étais incapable de vivre en affrontant tout ce qui se passait. Du coup, il y avait plusieurs choses qui se passaient. Et même simplement sur le côté relationnel, un truc un peu concret, typiquement de m'endormir seule le soir sans envoyer un message à quelqu'un ou en recevoir de quelqu'un. Ce truc-là me met par terre, quoi. Je n'y arrive pas.
Mais tu sais, il y a les amis.
Oui.
Et ça, parce
quoi?
Que je
Qu'est-ce
te,
que c'est que ça
je te
Quelle
comprends bien.
Bizarre.
Ouais, c'était compliqué pour ça. Et du coup, j'ai dit à des copines à un moment, vous pouvez me dire un peu.
Non, mais oui, c'était trop bien.
Oh,
fait.
J'ai reçu plein de bonnes nuits. Oh. Je peux te dire, et c'était tellement mignon.
T'as trop bien.
Et j'étais là. Pff, voilà, suffit de ça.
Ouais, non, mais trop bien.
Mais c'est. Enfin, c'est important de te dire qu'il peut y avoir aussi autre chose, quoi.
Oui, mais c'est ça. C'est
et sur
ça
le moment, t'y penses pas, quoi. T'es là, ouais, non, comment mais... ça je suis seule, on me dit pas bonne nuit.
On me dit pas bonne nuit.
Personne même, en fait.
Mais oui, c'est littéralement ça, that's the world point, de dire il peut y avoir autre chose. Ouais. De pas tout mettre là-dedans, quoi.
Comment tu vois évoluer ta vie amoureuse dans les années à venir?
Alors... Il y a une chose très concrète qui est que je pense que je me suis définie depuis longtemps comme bisexuelle. Mm-hmm. Peut-être plutôt pan même, je dirais, aujourd'hui. Et
tu peux expliquer peut-être ce que ça veut dire?
Ouais, ça, disons que bi, il y a le côté un peu binaire de j'aime les hommes et les femmes. Oui. Pan, c'est plus j'aime tous les gens, quels qu'ils soient. Et je suis attirée par la personne pour ce qu'elle est, pas parce que c'est un homme ou une femme ou autre.
Je trouve que parfois ça peut être compliqué de faire la différence entre les deux.
Alors oui, et puis ça se trouve je la résume mal. Mais
non,
pour moi,
tu
je
l'as
le comprends
bien
comme
résumé.
Ça. Ouais, pour moi je le comprends comme ça.
Mais ouais, je trouve que c'est pas simple.
Oui. Voilà. C'est juste peut-être un peu plus inclusif, il me semble de dire pas inclusif.
Oui, voilà, je pense aussi.
Il me semble que c'est essentiellement ça.
Et puis le côté ça parce que je suis une putain d'hétéro aussi.
Voilà, ils nous font chier, c'est hétéro.
Ils comprennent rien, putain.
Et oui, putain, pas compliqué. Non, et puis peut-être qu'il y a un peu le côté. Il me semble avoir compris comme ça, moi, dans ce que j'en ai compris, que bi a un peu le côté de je suis attirée par les hommes, je suis attirée par les femmes, pour ce qu'ils ont en tant qu'hommes et pour ce qu'elles ont en tant que femmes. Alors que pan, il y a un peu plus un côté, en fait, je suis attirée vraiment par les personnes. Mmh. Et c'est pas lié au fait qu'il y ait une quelconque féminité, masculinité, ou les deux, ou autre, il me semble. Et donc, tout ça pour dire qu'avec tout ça, j'ai quand même assez peu relationné avec des femmes. Et que c'est un truc... Que j'aimerais bien quoi, quand même un peu au bout d'un moment. Donc notamment ça fait partie des choses que j'ai en tête. J'ai essayé un peu sur des applis de rencontre, tout ça, mais ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant. Non pas que ce soit non plus une liste à cocher de to-do list pécho des meufs,
oui,
mais...
Bien sûr.
Mais c'est des réflexions en tout cas que j'ai. Et puis même de manière plus générale, d'expérimenter.
Ouais,
je pense. Et enfin, je suis encore un bébou hein, dans tout ce qui est relation libre, etc. C'est vraiment ma première relation libre un peu saine. Enfin, un peu, voilà, où c'est pas un sujet de débat, de tension, etc. Donc, de juste pouvoir explorer les choses sereinement, dans la communication, la sincérité, tout ça.
Trop bien. Moi, ce que j'aime bien avec toi, là, dans tout ce que tu dis, c'est que, et c'est tout le monde qui devrait être comme ça, c'est que toi, tu as trouvé ton modèle. Et que chacun fait bien ce qu'il veut,
bah,
comme
oui,
il
oui,
le veut,
oui,
du
sûr.
Moment que ça
bien sûr.
Te convient, ça ne te fait pas de mal à qui que ce soit. Mmh. Et c'est clair, quoi.
Mmh. Alors, en vrai de vrai, je pourrais aussi te dire que je pense que le monde irait mieux si tout le monde était en relation libre.
C'est vrai.
Oui.
Pourquoi?
Ah, mais parce que c'est plus simple. Non, en fait, c'est même pas que l'histoire de la relation libre. C'est l'histoire de ne pas avoir des codes qui n'ont de sens que parce que ils sont là depuis toujours et du coup on continue à les mettre en place, mais ça dans tous les rapports humains quoi, enfin juste le fait de encore une fois je parle beaucoup de travail, mais encore une fois dans mon rapport au travail, typiquement la manière dont je me comporte au travail, j'ai pas du tout les codes que beaucoup de personnes peuvent avoir de...
Ça veut dire quoi?
Je sais pas, par exemple, alors en plus je suis dans la fonction publique administrative, c'est très codifié, il y a plein de choses. Donc il y a tous les codes de faire attention à ne pas empiéter sur les missions de quelqu'un d'autre, ça peut être mal pris, ne pas avoir tel propos qui au niveau hiérarchique, tout ce que tu peux imaginer de petites choses qui peuvent être mal interprétées, mal prises, ça se fait pas, etc. Machin. Là-dedans, il peut y avoir des choses qui ont du sens, et dans ce cas, pas de souci, on peut en discuter, mais il y a aussi beaucoup de choses, de manière générale, de codes sociaux, sociétaux, où j'ai du mal à avoir du sens, autre que c'est comme ça depuis toujours, donc on fait comme ça. Mmh. Et tout ça plombe beaucoup de choses et rend très complexe beaucoup de choses dans le monde, je trouve. Et du coup, oui, pour le côté relation libre, je le vois comme ça aussi, parce que ne fonctionnant pas d'une manière... exclusive moi-même, ça me paraît être vraiment un code assez arbitraire de dire si tu fais du sexe avec quelqu'un, t'en fais pas avec quelqu'un d'autre, par exemple. Ou si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, t'en ressens pas pour quelqu'un d'autre. Donc ouais, le fait de En fait, c'est pas que tout le monde devrait être en relation libre, c'est que ce serait pas mal si tout le monde était dans quelque chose qui, dans un fonctionnement qui est son fonctionnement, parce que ça vient d'une réflexion qui fait sens pour la personne, quoi.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent.
Oui.
Tu m'as senti un oui,
les yeux dans les yeux.
Première fois que je fais une réponse aussi courte.
Très sincère.
Oui.
En fait, alors, qui s'empêchent ou qui imaginent pas, qui n'ont pas passé ces conceptions-là des choses. Là, je me retrouve à parler dans un podcast à Paris, mais j'habite à Saint-Étienne, je suis dans la fonction publique avec une moyenne d'âge de plutôt 40 ans et quelques, tout ça. Et je ne traîne pas forcément au quotidien avec des gens qui, pour qui tout ça fait partie intégrante de leur réalité. Oui. Je me souviens même d'ailleurs, je parlais de Mimi, je me souviens à l'époque où je n'étais pas encore en relation libre, où j'avais, je ne sais plus, ça devait être dans un live Twitch qu'elle avait fait un truc comme ça, où j'avais dû me poster un message en mode « Mais comment on fait pour être en relation libre quand on n'habite pas à Paris? Vous êtes mignons, vous, mais les autres dans les provinces, comment on trouve des gens ?» Parce que ce n'est pas forcément ancré comme ça. Ça l'est de plus en plus, je pense. Mais ça n'est pas tant, ça n'est pas dans tous les milieux, ça n'est pas dans toutes les générations de la même manière, très clairement. Et oui, moi j'ai beaucoup l'impression que de voir plein de personnes qui suivent des modèles parce que c'est comme ça, quoi. Et parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives envisageables. Ce qui n'est pas forcément un mal, hein. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit tout envoyer valser, tout remettre en question, surtout que c'est douloureux, hein. C'est vraiment pas simple de devoir remettre en question ce que tu as eu comme socle toute ton existence, c'est loin d'être simple. Mais oui, je pense qu'il y aurait de l'épanouissement à trouver pour beaucoup de monde en se demandant un peu plus ce qu'on veut soi et pas comment les choses doivent fonctionner parce que c'est comme ça.
Et ben cet épisode va faire réfléchir à nous.
Dis donc. OMG. Avec toute cette fatigue, on arrive à délivrer de la réflexion.
Oui, complètement. Non, mais je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé?
Alors oui, mais tant que j'aurais pas parlé pendant 30 jours en te regardant, j'aurais pas épuisé tout ce que j'ai à dire.
Mais dis-moi.
Ah non, je veux dire, de manière générale, je pourrais m'étaler en long, en large et en travers sur plein de choses. Donc,
mais là, sur ce qu'on s'est dit sur la non-exclusivité, sur le couple, sur l'amour. Moi, j'aime bien le lien que tu fais avec le travail quand même. Parce que en fait, tu penses à des modèles à toi qui te correspondent, en fait.
Si, alors, je pense à ça notamment pour le côté travail. J'ai aussi conscience que c'est pas non plus tout le monde qui peut se permettre tout ça, notamment sur le côté travail, le côté... oui, tout. Je vois une petite patte qui s'agite à côté de moi. Oui, je pense que c'est quand même un certain privilège de pouvoir se remettre en question, que ce soit le côté travail, le côté relation libre, etc., d'avoir par exemple, je l'ai dit, j'ai eu une période qui a été un peu mouvementée, chaotique, et notamment où j'ai pas travaillé tout le temps, où j'avais droit au chômage, et où j'ai aussi mon père notamment qui peut me soutenir financièrement. Donc ça part un peu sur le côté travail, mais je pense que c'est vrai aussi pour le côté relation libre de t'as aussi des difficultés dans le quotidien qui font que tout le monde n'est pas à égalité pour se dire tiens, si je remettais tout en question et que j'envoyais tout, valser. Oui. Donc bien sûr qu'il y a aussi tout ça à prendre en compte, mais si on peut le faire, et puis enfin vraiment de manière générale, quoi, c'est pas le sujet des relations libres spécifiquement, juste s'interroger sur ce qu'on veut vraiment. Ça a un petit côté développement personnel, alors. mais oui, en fait, juste dans le sens simple de se demander ce qu'on veut, quoi, et mettre du sens. Je pense que je suis beaucoup là-dessus, en fait, chercher à mettre du sens dans les choses.
T'entends quoi par mettre du sens?
Trouver une réponse à pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi j'ai envie que ce soit ça? Pourquoi je ressens ça? Pas être en automatisme. D'être capable de... Ouais, d'avoir une réflexion ou de répondre si on te pose la question à un moment de... Mais en fait, pourquoi tu te retrouves là? Pourquoi ça... Ouais. Ouais, mettre du sens.
Tu penses que ça va évoluer avec les nouvelles générations? Nous sommes vraiment très âgés. Mais tu vois, ces modèles-là, ils vont être plus communs à l'avenir, tu penses?
Ouais, a priori, je crois que c'est déjà un peu une... Enfin, clairement, j'ai pas du tout en tête les statistiques, mais je pense en avoir déjà vu passer sur le fait que ce soit en termes d'identité de genre ou de fonctionnement de relation ou d'attirance amoureuse ou sexuelle. Effectivement, les choses bougent, notamment parce qu'il y a plus de représentation. J'y crois énormément à l'impact de la représentation. Donc, ça va en avançant. Donc oui, je pense que ça
aussi en avançant sur tout ça. Après, c'est pas, je suis pas non plus dans l'idée que c'est limpide et que tout va se faire facilement. Et en fait, à la fois, ça me paraît absurde tout le côté codification de la société, etc. À la fois, j'ai conscience que c'est un truc très ancré, qui a un poids vraiment pour plein de gens, pour qui c'est vraiment c'est violent de remettre tout ça en question. Et le fait que potentiellement les jeunes générations aillent en se développant là-dessus, j'ai conscience aussi que ça va se heurter en face à des personnes pour qui tout ça est une ignominie ou complètement fou, complètement. Enfin voilà. Donc c'est aussi pour ça que je parle de mettre du sens. C'est le fait. Enfin pour moi, si les choses sont, si t'as une réflexion derrière quelque chose, tu peux l'expliquer. Tu peux en parler, tu peux communiquer, tu peux essayer de l'expliquer même à quelqu'un qui est pas d'accord avec toi au départ. Quoi, le fait d'avoir une du sens et une réflexion à donner, ça ne veut pas dire que la personne sera d'accord avec toi à la fin, mais bon, c'est déjà peut-être plus, plus envisageable, je ne sais pas.
Très bien. Merci beaucoup, Anouk.
Avec plaisir.
C'était très intéressant.
OMG.
Tu as une douce voix.
Ah là là.
OMG, tu dis beaucoup, OMG.
Oui, je me réfugie là-dedans, sans doute.
C'est nos petits... je ne dis pas ça comme quelque chose de mauvais. Hein.
Oui, je comprends.
Merci beaucoup à Anouk pour son témoignage. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter Amour. Pour participer, les informations sont en description. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram. J'ai eu beaucoup de messages suite à la diffusion du podcast enregistré avec Stéphanie. C'était trop bien, ça nous a fait beaucoup plaisir à toutes les deux. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.